Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Depuis quelques mois, on parle énormément d'intelligence artificielle. C'est un sujet qui pose beaucoup de questions, qui provoque beaucoup de débats, beaucoup d'inquiétudes aussi. Et évidemment, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'années et d'années de recherche et de développement. Et justement, notre prochain invité était là il y a plusieurs années. Il fait partie des pionniers, notamment des IA qui développent des images. Il va venir nous parler de ce que son travail dans ce domaine l'a amené à vivre. Merci d'applaudir Pierre.
Alors, 1, 2, ouais. Bonjour à tous, donc moi je suis Pierre, je fais partie d'un trio d'artistes qui s'appelle Obvious, et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'une histoire qui nous est arrivée il y a 5 ans, qui a lancé notre carrière et qui a été un peu une des pierres fondatrices de ce mouvement qui est l'IA Art. Donc en fait, ça a commencé par une histoire de potes avant tout. Il se trouve que moi j'ai grandi en banlieue parisienne et j'ai grandi avec une bande de potes, on est une vingtaine, on est comme les doigts de la main, on fait tout ensemble, etc. Et puis, je ne savais pas trop quoi faire après mes études. Tous les potes se déplacent partout en France, etc. Et puis, avec deux potes, on se dit, bon, on part faire nos vies. Et puis, après nos études, on se mettra ensemble dans une colocation. Et puis, on essaiera de faire quelque chose de créatif ensemble. Et c'est là que rentrent en jeu dans cette histoire les deux autres membres du trio, qui sont Hugo et Gauthier, qui sont des personnes donc, avec qui j'ai grandi. Et parmi ces trois personnages, il y a Hugo. Et Hugo, à l'époque, il fait de la recherche en intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire qu'il est en train de passer son doctorat, il fait sa thèse. Et durant sa veille scientifique, parce que quand vous êtes un scientifique, vous faites de la veille, c'est-à-dire que vous allez regarder les différentes choses qui sortent dans votre domaine de compétences. À ce moment-là, Hugo, il tombe sur des algorithmes qui s'appellent des Generative Adversarial Networks, qui sont des algorithmes qui permettent de générer des images à partir d'un très grand nombre d'images. Donc il revient à la maison tout excité, il nous dit « Eh les gars, regardez ce qui se passe dans l'intelligence artificielle et tout. » Et en fait, il nous montre des images qui ont été générées à partir d'un très grand nombre d'exemples, donc, qui sont des petits portraits qui font 512 par 512 pixels, donc tout petits, de personnes qui n'existent pas. À cette époque-là, on est en 2017, et en fait, nous trois, on est dans notre colocation, on est passionnés de science-fiction, de nouvelles technologies, ça bouillonne en nous. Et puis, quand on voit ces algorithmes-là, on a d'abord un choc technologique. Putain, c'est incroyable ce que ces algorithmes peuvent faire et ce qu'ils pourront faire dans le futur. Et puis, un peu après, on a quand même on a tous des pratiques artistiques différentes. Moi, je suis plus dans la musique. Gauthier, il écrit. Hugo, il peint. Donc, on a notre culture qui revient au galop, et on commence à se poser la question, qu'est-ce qui se passe si on crée avec ces algorithmes? Quelles questions philosophiques ça pose? Et en fait, au fur et à mesure de notre discussion assez fumeuse, on se rend compte que en fait, ça pose des questions assez intéressantes qui ont été posées dans toute l'histoire de l'art, de type, qu'est-ce qui est de l'art? Qu'est-ce qui définit ce qui est de l'art? Qui est l'artiste? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est mon outil? Donc ces questions-là bouillonnent en nous, et on se dit, bon, allez, bingo, on va essayer de proposer une série d'œuvres aux gens. Donc là, il faut se rendre compte que nous, on n'a aucune connaissance de ce milieu de l'art contemporain et de l'art de manière plus générale. On n'a pas fait les beaux-arts, on vient de nulle part, quoi. Et donc ce qu'on se dit de manière assez candide, et aujourd'hui, je ne le referai pas, mais à l'époque, on se dit, pour pouvoir représenter la puissance de ces algorithmes, on va faire le pinacle de l'art qui est les portraits classiques, les portraits qu'on peut voir dans les livres d'histoire ou dans les musées. Vous savez, c'est ce portrait d'un noble avec un cadre en or, etc. Donc on commence à créer une base de données, on entraîne notre algorithme, on lui fait générer des images et on les fait imprimer sur une toile. Par rapport à... Enfin, il faut se rendre compte qu'à l'époque, on n'a pas un sou, donc on prend l'imprimeur local qui est vraiment tout, tout, tout moche, on prend le cadre en or du coin pour l'encadrer, c'est vraiment un truc complètement à l'arrache. Mais notre vision, c'est vraiment d'essayer de poser des questions sur toutes les questions dont je viens de vous parler, qui sont quel est le rôle de l'artiste, etc. Donc on crée cette série, et puis on se dit, bon, bah, logiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir les galeries. Donc, bien évidemment, si vous êtes dans l'art contemporain et que vous toquez à la galerie avec votre œuvre empaquetée sous le bras et que vous rentrez dans la galerie et que vous faites « Et alors, t'en penses quoi ?» vous imaginez bien la tête du galeriste qui vous dit « Bon, écoute, t'es mignon, la sortie, c'est par là. » Donc, on a pris plusieurs refus de ce type-là, de type « Des mecs rigolent littéralement devant nous. » Et puis, on a même poussé le truc en se disant « Non, mais attends, sur les ventes aux enchères, ça devrait marcher. » Donc, on se dit « Bon, on va le vendre sur quoi ?» Bah, sur eBay, parce que c'est là que se vendent les peintures. Encore une énorme erreur. Bref. Et donc, en gros, on commence à un peu à se dire « Bon, bah, comment est-ce qu'on va faire parler de cette série ?» Et là, on se dit, il y a l'école de Xavier Niel, l'école 42, où on forme les informaticiens. À l'intérieur de l'école, il y a plein d'œuvres de street art. Et donc, on se dit « Bon, bah, nouvelles technologies et art, on va essayer de proposer à l'école 42. » On rencontre la personne qui possède la collection d'art, qui n'est pas Xavier Niel, mais qui est un collectionneur d'art assez identifié à Paris. Et Nicolas, qui est donc cette personne, nous achète notre première toile. J'imagine que c'est plus pour nous que pour la croûte qu'il avait dans les mains qu'il a acheté cette toile, mais en gros, ça nous a donné notre premier support. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'était très cher de créer et de faire fonctionner ces algorithmes. Et donc, nous, ça nous donne un petit élan. C'est cool. Les gens commencent à s'intéresser à ce mode de création. Et puis, il y a une journaliste qui a vend d'un premier article. Et donc, ça commence à prendre. La boule de neige commence à prendre. Ça grossit. Il y a quelques articles. Et là, un jour, donc on est chez nous, tous les trois, toujours dans notre appart. Et là, on reçoit un mail de Christie's. Christie's, c'est la maison d'enchères qui vend les Picasso. Faut vous rendre compte que quand vous entendez cette œuvre a été vendue, ce Picasso a été vendu aux enchères pour 150 millions, c'est pas sur eBay, c'est chez Christie's, donc c'est des grandes maisons, etc. Et donc là, vous êtes comme ça, vous dites, non, ok, c'est incroyable. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Christie's ne contacte pas les artistes d'habitude. D'habitude, c'est vous, en tant qu'artiste, vous vendez à un collectionneur, et quand il veut se séparer de sa toile, bah à ce moment-là, il la met aux enchères, etc. Donc déjà, c'est un truc de dingue. Donc là, vous êtes comme ça, vous dites ok, bien évidemment, vous saisissez votre chance. La date est fixée, octobre 2018. Très bien. Donc nous, on se dit, on espère que ça va être cool. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un espèce d'emballement médiatique, parce que Christie's fait une conférence de presse en disant, voilà ce qu'on va faire. Et là, vous imaginez bien que les gens des galeries, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi est-ce que vous créez avec des algorithmes ? Qu'est-ce que c'est que cette idée ? Et donc là, il y a une espèce de tension qui commence à se créer, donc dans l'été, alors que la vente aux enchères est pendant octobre, une espèce de méli-mélo d'articles positifs et négatifs qui commence à dire, bah, soit c'est du génie, soit vous êtes des menteurs, des voleurs. Donc il y a une attention médiatique qui gonfle. Et donc là, nous, on se commence à se sentir un petit peu dépassé par notre création. Durant l'été, Hugo se casse le genou. Et donc, en fait, au moment d'aller en octobre à New York, il ne peut pas y aller. Donc, on se retrouve bras dessus, bras dessous avec Gauthier. On prend notre petit billet d'avion, on va à Christie's, arrive le matin de l'enchère. Là, il faut se rendre compte que j'étais incapable d'avaler un café. Enfin, c'est un niveau de stress qui est démesuré parce que, en gros, il y a déjà une cinquantaine d'articles qui ont été écrits. Donc là, vous êtes tremblant. Vous n'avez jamais rien fait et vous rentrez dans la maison d'enchères. En l'occurrence, les enchères se passent. Avant, il y a Jeff Koons, Murakami, les grands noms de l'histoire de l'art. Vous n'avez jamais vendu une toile, enfin une. Donc voilà. Et en fait, nous, on a l'image d'Épinal, vous savez, où les gens ils lèvent leurs petits trucs, etc. Et en fait, dans la salle, il y a un parterre de sièges. Nous, on se met au milieu, on se dit, on sera tranquille, personne ne nous verra. Et en fait, on est tout seul. C'est-à-dire que littéralement tout seul, donc sur les sièges, il n'y a personne. Il y a plein de gens qui sont en train de regarder la vente aux enchères, mais derrière, debout. Mais en fait, tous les gens sont au téléphone. C'est-à-dire que c'est des gens au téléphone, etc. Donc, vous êtes tout seul. Et là, la vente aux enchères commence. Donc, notre œuvre, elle est estimée entre 8 et 10 000 euros. Donc là, on est assis. Et 8, 10, 12, 15, 20. Donc là, on commence à se regarder en mode « Yes !» Bien, bien joué, yes. Nous, on s'était dit 10, 20, ça pourrait être cool, on pourrait faire des trucs après. Et puis là, ça continue, 15. Et après, en fait, les paliers sautent. C'est plus de 2 en 2, mais c'est de 55. 15, 20, 25, 35, 40, 50. Là, je commence à regarder Gauthier. Et alors, moi, je ne sais pas la tête que j'avais moi, mais lui, il avait la tête d'une biche prise dans les phares, quoi. C'est comme ça. Je devais probablement avoir la même. Ça continue de monter et les paliers changent. Donc on passe de 50, 100 000, 150 000, 200 000, 300 000, 350 000 dollars. Et donc là, il y a tout le monde qui vous regarde dans la salle, comme ça. Et alors là, vous êtes pris au trip par un syndrome de l'imposteur terrible. Qui on est, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Le marteau tombe, et là, tout le monde vous applaudit, vous êtes... Et donc là, nous, on est vraiment tremblants, quoi. On sait pas quoi dire, on est vraiment mal. Et donc le marteau tombe, ça fait 350 000 dollars. Et donc, quand vous rajoutez la commission de Christie's, plus les frais, etc., ça fait un demi-million de dollars. Et là, sur le moment, ça fait de vous l'artiste le plus cher français. Enfin, c'est la totale, quoi. C'est... Donc là, donc nous, il faut savoir qu'on est sans Hugo, qui est tout seul, derrière son ordi, à voir les enchères monter, ce qui devait être un gros moment de solitude pour lui. Et donc on l'appelle, là il y a tous les journalistes du monde qui commencent à nous appeler, ça n'arrête pas, il y a notre boîte mail qui fait gling, 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 enfin la totale. Donc là on décide, parce qu'à l'époque, c'est l'époque où il y a les deux frères de PNL qui sont pour les... plus âgé de notre salle, un groupe de rap qui avait une stratégie de marketing géniale qui était de répondre à personne. Donc on s'est dit, bon, on se referme sur nous-mêmes. Le soir même, on prend un billet d'avion pour rentrer voir nos mères parce que c'est mort, on reste pas dans cette ville de fous, on se barre, etc. Et donc on revient à Paris. Et là, en fait, là, ce qui est très dur, c'est de se dire, mais putain, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, de fil en aiguille, on a continué à créer, on a continué à pousser cette réflexion philosophique sur la place des algorithmes et de l'importance que ça peut avoir dans nos vies. On essaye d'expliquer au final que travailler avec un algorithme, c'est comme travailler avec un appareil photo, que c'est pas la machine qui crée, mais que, en gros, vous créez avec. Au début, en fait, on a cherché en expérimentant, mais on a tout fait à l'envers. On a commencé par une vente aux enchères qui est le pinacle de la création artistique pour maintenant être en galerie et exposé dans des musées. Et donc, complètement par hasard, avec un peu de flair et une envie de parler de ces sujets et de l'importance qu'ont les algorithmes dans nos vies, qu'on est devenu pionnier de l'IA. Voilà.